je me disais, avant de partir en vacances, puisque maintenant vous le savez, nous partons quelques jours aux USA, donc j'ai dit récemment que vous aurez un mois complet pour pratiquer tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, donc entre autres les fruits de l'esprit que nous trouvons dans la parole de Dieu. J'espère que vous les pratiquez déjà maintenant, que vous n'allez pas attendre le mois de mai pour pratiquer les fruits de l'esprit. Mais cette idée des fruits de l'esprit me paraît importante dans la parole de Dieu, puisque nous voyons que le Seigneur nous a constamment encouragés à porter du fruit. Alors nous avons vu dans les exhortations précédentes l'importance du fruit de l'esprit. La parole de Dieu nous en parle et le Seigneur nous l'a rappelé, de l'importance des fruits de l'esprit. Nous avons aussi vu dernièrement le développement des fruits de l'esprit, donc c'est quelque chose que nous devons rechercher, c'est un choix, et en même temps c'était la préoccupation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu donc la dernière fois le premier mot qui se trouve dans Galates chapitre 5, verset 22, nous avons vu donc le mot amour, nous avons vu ce que la parole de Dieu dit en tout cas dans le mot amour. Mais en réfléchissant un petit peu à ce mot, je me suis aperçu que j'en ai dit qu'un dixième de ce que j'aurais pu dire par rapport à ce mot. La Bible montre, et dans, si vous lisez la parole de Dieu régulièrement, vous allez voir qu'il n'y a pas que 1 Corinthiens chapitre 13 qui nous parle de l'amour. Ce mot existe 72 fois. Il y a 72 versets dans la Bible qui nous parlent d'amour. Et je me dis, on pourrait aborder en tout cas ce sujet des tas de dimanches, mais je vais quand même m'arrêter là aujourd'hui pour vous montrer que le Seigneur a quand même laissé quelques concepts en tant qu'enfant de Dieu pour que nous puissions pratiquer cet aspect de l'amour, l'amour agapé que le Seigneur nous montre dans sa parole. Je voudrais vous lire donc le verset que nous suivons petit à petit, et donc Galates chapitre 5, verset 22, « Car le fruit de l'esprit c'est l'amour, la paix, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. » Laissez-moi vous relire 1 Corinthiens chapitre 13. Alors je me suis souvent posé la question, est-ce que lire et relire la Bible est une bonne chose? Je le crois. Dans l'Ancien Testament, quand Néhémie est venu construire, eh bien, Néhémie a lu la Bible pendant toute une journée. Ça a touché le cœur du peuple. Et je pense que nous avons besoin de lire et relire la Bible constamment. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis qu'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de la prophétie, la science et tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périra jamais, la prophétie sera abolie, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli, Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais lorsque nous verrons face à face, aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Je voudrais vous poser, avant de regarder les concepts dans la parole de Dieu, est-ce qu'il vous est traversé l'esprit un jour de se dire, je voudrais mettre en pratique 1 Corinthiens chapitre 13. Juste, allez, parce que je suis quelqu'un de bon dans ma vie personnelle, je veux voir des choses se transformer dans ma vie personnelle, juste une journée dans les 365 jours de l'année, juste me dire une fois, tiens, je voudrais mettre en pratique 1 Corinthiens chapitre 13. Je ne sais pas vous, mais moi j'avoue que j'ai essayé, j'essaye encore, j'espère que demain je vais encore essayer, mais quand j'arrive à certains versets de la Bible, j'avoue que j'ai un peu de mal. Et c'est pas que je veux pas mettre en pratique, c'est que quand on me dit que l'amour supporte tout, je dis ah ouais, est-ce que la personne qui est en face de moi, est-ce qu'elle supporte tout? C'est quand même à y réfléchir. Est-ce que quand nous tombons sur le passage qui dit que l'amour ne se vante point, ah ouais? Est-ce que vous avez déjà essayé de mettre ce verset en pratique dans votre quotidien? C'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Nous voyons que cet amour, ces concepts que Dieu nous a laissés dans sa parole, méritent quand même toute notre attention. Et nous savons bien que ce mot amour, agapé, comme nous le trouvons dans la parole de Dieu, comme nous le trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 13, demande de notre part parfois un effort d'aimer la personne ou les personnes que le Seigneur a mis à côté de nous, d'aimer avec un sacrifice, donner tout à l'autre et ne point regarder à soi-même. Ça demande parfois un grand amour. Et quand on regarde ce que le Seigneur a fait pour nous, mais on se dit quand même, il a donné tout jusqu'à aller sur la croix. Est-ce que nous sommes prêts à donner tout dans le sens de ce que le Seigneur nous demande dans l'amour? Alors, 1 Corinthiens chapitre 13 nous l'a rappelé, que maintenant, donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Je pense que nous avons besoin de nous le rappeler au quotidien. Si nous restons attachés au cercle, si nous restons attachés près de notre Seigneur, cet amour-là est possible. En devenant chrétiens, nous ne sommes pas devenus des robots, loin de là. Nous ne faisons pas les choses mécaniquement, loin de là. Mais nous devons pratiquer cet amour agapé si nous voulons bien sûr vivre le christianisme que le Seigneur nous demande de vivre. Jésus a dit que le christianisme est une affaire de relation. Eh bien, je voudrais vous lire Jean chapitre 15, les versets 9, 10 et 12. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Quand on le regarde à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour que le Seigneur partage nous pousse à voir que ça a quand même été de l'abnégation de la part de Jésus. Il a tout donné. Il a même demandé pardon aux personnes qui le crucifiaient. Est-ce que dans l'Église, nous pratiquons cet amour? Est-ce que dans notre lieu de travail, est-ce que nous pratiquons cet amour? Est-ce que, maman, quand vous allez à côté, à l'école, et que vous voyez vos enfants, est-ce que vous pratiquez cet amour à l'école, avec votre voisin, avec votre voisine, avec votre famille? Est-ce que vous êtes l'auteur de cet amour que le Seigneur a mis dans votre cœur? Pas toujours facile, faut bien avouer. Pas toujours facile de vivre cet amour que le Seigneur nous donne dans Agapé chapitre 13. Mais la vie en Christ est quelque chose de possible. Et je pense que si le Seigneur nous demande et nous donne ces versets, c'est quand même quelque part, nous savons bien que sans l'Esprit de Dieu, il est impossible de vivre cet amour. Et grâce à l'Esprit de Dieu qui nous laisse dans l'intimité avec Christ, eh bien cela est possible. Alors le premier concept, l'amour est possible. En Christ, l'amour est possible. Même dans le monde où nous sommes en train de vivre aujourd'hui, dans le troisième millénaire, nous pouvons vivre cet amour. Quand je regarde notre monde aujourd'hui, il va très très vite. Je suis émerveillé de mon téléphone portable que je viens de changer il y a quelques jours. Il y a quelques temps, je trouve que c'est une machine vraiment révolutionnaire. Dire qu'il y a quelques années, on avait des téléphones à la maison et qu'on n'avait pas des portables dans notre voiture qui nous appelaient. Le téléphone était uniquement à la maison ou au bureau. Maintenant, le téléphone portable nous suit là où c'est que nous sommes, où nous allons. C'est une vraie machine. Hein. Je trouve ça vraiment révolutionnaire. Notre monde va très très vite. Et en même temps, quand je regarde notre monde aujourd'hui, je vois un monde qui est de plus en plus pollué. C'est-à-dire que techniquement parlant, technologiquement parlant, nous sommes au summum. Vraiment là-dessus. Et je pense qu'au fur et à mesure que nous allons avancer, vous allez voir que la technologie va nous envahir de plus en plus. Je rêve, alors je ne sais pas si je le verrai, mais d'avoir, vous savez, à côté de moi, pas un petit chien, mais un petit androïde, vous savez, qui vous suit. Vous lui dites, va nettoyer la vaisselle, va faire la vaisselle. Et vous allez voir ce petit androïde, va parcourir toute la maison et puis va nettoyer, et va prendre le temps de faire la vaisselle. Vous allez dire à votre ordinateur que vous avez, je veux que ce store soit fermé. Et vous appuyez sur le bouton et vous allez voir que, avant, on avait tout un mécanisme, vous savez, pour descendre le store, où on devait sortir, ouvrir la fenêtre, là. Fini, terminé, vous allez appuyer sur un bouton de votre fauteuil et vous allez avoir le store qui va descendre. La technologie est en train de nous envahir, mais je me dis, à côté de cela, notre monde est vraiment pollué. Nous envoyons des satellites qui nous coûtent des millions d'euros dans l'espace. Et à côté de cela, vous avez des millions d'enfants qui sont en train de mourir de faim sur cette planète. Moi, je me dis, le monde est devenu fou, n'est-ce pas? Mais ça m'a fait penser à l'ère avant le déluge. L'Éternel vit la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Mais c'est ce que nous sommes en train de vivre, mes frères et sœurs. On a beau avoir la technologie la plus avancée de la Terre, aujourd'hui, c'est chacun fait ce qui lui semble bon. Et on a beau avoir la meilleure technologie sur la Terre, notre monde est plein de compromis concernant l'immoralité, concernant notre intégrité, la vie que nous vivons chaque jour, et notre monde est envahi de mauvaises odeurs. Ça m'a fait penser, en faisant cette prédication, à une expérience que nous avons vécue aux USA il y a quelques années. Il y a quelques années, nous sommes allés visiter donc un ami, un missionnaire en Iowa. La capitale, c'est Des Moines. Si vous regardez la carte de l'Amérique, c'est en parallèle au centre des États-Unis, vers le nord, c'est à côté de l'État de Chicago. Et ce missionnaire donc nous a reçus, et ce jour-là, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, il a voulu nous inviter chez un fermier américain. Ce fermier américain, donc ce chrétien, avait une magnifique campagne, et dans cette campagne, il avait des tas d'animaux. Entre autres, il avait une porcherie. Et à un moment donné, nous étions en train de discuter après un repas, superbe à l'extérieur, vous pouvez imaginer, dans la campagne américaine, ce chrétien américain nous dit « Allez, je vais vous faire un peu visiter ma ferme. » Et que mal lui a pris à un moment donné de nous dire « On va visiter la porcherie. » Alors je ne sais pas pourquoi il nous a dit ça, je ne me souviens plus exactement, mais on est rentré dans cette porcherie, j'étais devant, mon épouse était derrière, et puis vous aviez cet chrétien fermier américain qui nous faisait tout un commentaire. Alors vous aviez une allée, je ne sais pas si vous avez déjà vu une porcherie, vous avez une allée là au milieu, au centre, vous avez des cochons à droite, des cochons à gauche, des cochons à droite, et la porcherie était immense, mais vraiment immense. Et je me souviendrai toujours de l'expérience, on est rentré à l'intérieur de cette porcherie, et dès qu'on a ouvert la porte, une odeur est montée au nez. Mon épouse, ben, elle est là, vous pouvez lui poser la question, elle me poussait pour que j'avance le plus rapidement possible pour atteindre la porte qui était au l'autre bout. Et là-bas, j'ai jamais marché aussi vite de ma vie que dans une porcherie. Quand nous avons ouvert la porte de la porcherie, donc la deuxième porte de la porcherie qui était au bout, toute odeur était salutaire. Toute odeur autre que la porcherie où nous étions était vraiment salutaire. Il a fallu faire une odeur extraordinaire pour essayer d'éliminer toutes ces odeurs que nous avons prises à un moment donné dans notre nez. Et je me suis aperçu en pensant à cette expérience que nous devons faire un effort extraordinaire parfois dans notre monde, parce que le monde sent aussi mauvais parfois que d'une porcherie. Et je pèse mes mots, vraiment littéralement, je pèse mes mots. On doit faire parfois un effort considérable autour de nous, dans notre vie de tous les jours, au travail, à l'école, avec nos enfants, nous avons besoin de faire un effort considérable pour nous discipliner, pour avoir, je dirais, des pensées pures, des pensées propres, des pensées, je dirais, qui nous éloignent, bien sûr, de ce monde. Mais en réalité, le Seigneur nous demande que le Seigneur nous laisse, pardonnez-moi, je mets ça entre guillemets, dans cette porcherie, pour que l'amour dans ce monde puisse resplendir. Et cet amour doit se voir entre nous. Nous devons montrer au monde qui nous entoure un amour qui est incompréhensible par rapport à ce monde que nous avons tout autour de nous. Que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres, pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous, qu'il affermisse vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, votre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints. J'ai réfléchi à ces quelques versets. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir un amour irréprochable dans la sainteté? C'est impossible. écoutez, mettez en pratique simplement une demi-journée, 1 Corinthiens chapitre 13. Votre femme ou votre mari, sûrement si vous mettez ces passages en pratique, même vos enfants, ils vont sûrement dire qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui. Il y a quelque chose qui a dû se passer cette nuit, qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Mais c'est l'idée que le Seigneur veut que nous pratiquions. Quelque chose qui est impossible aux yeux du monde, Jésus-Christ le rend possible si nous restons attachés à Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, on le saurait, on le sait dans notre cœur, on ne pourrait pas avoir cette puissance de surmonter l'amour, cet amour unique qui a été manifesté en Christ. Je sais que certains d'entre vous vous envoyez des SMS. Je vous envoie aussi de temps en temps des SMS. Je me suis dit, durant cette semaine et les semaines précédentes, est-ce que nous, en tant que chrétiens, on va rester souvent superficiel comme ce monde? Oh, je ne suis pas contre les SMS. Hein. Je suis persuadé qu'un chrétien qui reçoit « Je t'aime » ou « I love you » ou je ne sais pas quoi, ou un gros verset de la Bible, je ne suis pas contre. Hein. Loin de là, hein. Loin de là. Après tout, la technologie a du bon parfois. Mais est-ce que vous avez réfléchi un instant, simplement, dire « Tiens, je vais poser mon SMS sur la table aujourd'hui et je vais vivre comme le Seigneur me le demande de faire sans ce téléphone. » De se dire je veux vivre l'amour comme le Seigneur me le demande, peut-être je vais prendre ma voiture, je vais me présenter à ce frère ou à cette sœur qui passe par un moment difficile et au lieu de lui envoyer un SMS, d'aller la voir cette personne, de lui mettre le bras autour d'elle et de lui dire « on va prendre 5-10 minutes ensemble, on va prier ensemble pour ta situation ». Ça, pour moi, ça, c'est de l'amour qui se sacrifie. C'est de l'amour qui se donne. Ça, c'est de l'amour qui dit « je mets de côté la technologie, je prends mon temps, je prends ma voiture, je prends le temps pour me déplacer, pour aller voir une personne et de prier avec cette personne ». Ça, c'est de l'amour que le Seigneur aime me voir. Vous savez, le Seigneur n'avait pas le téléphone à l'époque, et Dieu merci. Par contre, il allait voir les personnes qui souffraient. Il se déplaçait vers les personnes qui avaient des besoins. Et nous avons besoin de le manifester dans notre quotidien, cet aspect. Deuxième concept, l'amour pardonne. C'est possible de pardonner à l'autre. Si nous restons attachés au self, si nous restons proches de Jésus, c'est possible de se demander pardon. Et si nous comprenons cela, eh bien vous comprendrez sûrement ce que Paul a enseigné aux Colossiens chapitre 3, versets 13 et 14. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. C'est possible de se demander pardon. Ça demande un effort. Ça demande parfois, c'est vrai, un sacrifice. Ça demande de mettre de côté parfois notre plainte, nos dadas, notre manière de penser. Ça demande parfois un certain sacrifice. Mais laissez-moi vous rappeler les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, Matthieu chapitre 6. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Moi, voyez-vous ce verset, ou ces versets, si vous voulez mettre en pratique cela dans votre quotidien, eh bien, il ne faut pas s'endormir la nuit tant que vous n'avez pas demandé pardon à la personne que vous avez offensée. Si vous voulez mettre en pratique ce verset, vous devriez passer des nuits blanches. Parce que si vous voulez le mettre vraiment en pratique, eh bien, ça va demander de votre part un effort considérable d'aller voir la personne et de lui demander pardon. Alors, peut-être votre environnement est pollué, mais si nous restons attachés à Christ, cela est possible de demander pardon. Parce que en Christ, tout est possible. Je pense que cela nous rappelle que en Christ, les choses sont possibles. Auparavant, j'étais dans le monde pollué, dans le même monde que nous vivons aujourd'hui. J'étais dans ce monde auparavant. Mais en Christ, je suis devenu une nouvelle nature, une nouvelle création. Cette création doit manifester l'amour pour les uns et les autres. Ça va vous demander de l'effort. Si quelqu'un se plaint de vous, ça va vous demander des efforts, vous demander pardon. Troisième concept, l'amour attire. Jésus a dit, et moi quand j'aurai été enlevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. La puissance de Dieu attire, elle est inconditionnelle, elle est sacrificatoire. Quand on regarde la croix, le Seigneur a tout donné pour attirer l'être humain auprès de lui. Et quand je regarde la croix, elle n'est pas simplement un bout de bois pour moi. Dans ma tête, je me dis souvent que c'est la place que je mérite, moi, sur cette croix. Et si nous prenons conscience de ce que le Seigneur a fait dans notre vie, eh bien, nous allons prendre conscience que cet espoir se trouve en Christ. Nous pouvons attirer le monde à Christ si nous vivons l'amour fraternel entre nous. Cela nous donnera de l'espoir, cela va nous motiver de voir que en Christ nous pouvons vivre cela. Nous devons nous laisser couler en Christ son amour, parce que l'amour c'est Christ qui l'a inventé et c'est lui qui a inventé cela, donc nous devons être proches de lui. Quatrième concept, et c'est le dernier, l'amour rebondit. Je m'explique. Nous devons nous mettre en condition quand on veut aimer l'autre. Quand l'autre nous fait du mal, qui que ce soit, hein, que ce soit dans notre propre famille, quand ce soit dans notre travail, que ce soit à l'église, parfois, parce que ça arrive, que ce soit aussi, parfois, à l'extérieur de tout ce petit monde-là, chez notre voisin, chez notre voisine, parfois, il est difficile de comprendre que l'amour doit rebondir. Mais laissez-moi vous rappeler le premier martyr dans l'église, Étienne. Étienne, quand il était en face de ses accusateurs, Actes chapitre 7, quand il a parlé de l'Évangile, quand il a dit ce qu'il avait à dire, les Juifs, à un moment donné, se sont sentis offusqués de cette parole et ils n'ont pas pris ni des poires, ni des pêches, ni des pommes, ni des tomates. La Bible nous dit qu'ils ont pris des pierres et qu'ils ont lapidé Étienne. Voilà ce que le texte nous dit. Il y avait un certain Saül qui tenait les vêtements pendant qu'Étienne était en train d'être lapidé. Et voici ce que Étienne a dit à haute voix. Seigneur, ne leur impute pas le péché, ce péché. Je me dis, vous savez, c'était des personnes qui étaient en train de l'éliminer. Hein, ils étaient en train de le tuer, littéralement, Étienne. Et Étienne a dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Je me dis, est-ce que nous manifestons vraiment cet amour vis-à-vis des personnes qui nous font du tort, qui nous font du mal? Ces personnes qui, parfois, mériteraient un bon petit coup de gourdin derrière la tête. Ah, il y a des fois, il y en a certaines qui mériteraient vraiment un bon coup de gourdage derrière la tête. Non, le Seigneur leur, nous demande de dire, Seigneur, ne leur impute pas le péché. C'est un petit peu la même parole que le Seigneur a prononcée. Nous trouvons cela, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font quand Jésus était sur la croix. Il était en train de demander pardon à ces personnes qui étaient en train de le crucifier. Alors c'est vrai que l'amour demande de l'effort de notre part. Et si nous voulons changer notre vie, si nous voulons être la même image de gloire en gloire, comme nous est dit 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Mais si nous voulons manifester cela, bien il va falloir faire des efforts. Ne gardons pas rancune vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur. Si vous avez une rancune vis-à-vis d'une personne, ne la gardez pas. Ne gardez pas, refusez de ne pas pardonner à une personne vous implique que si vous refusez de demander pardon à quelqu'un d'autre, le Seigneur va agir de la même façon que vous agissez parfois vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Si vous refusez de demander pardon, ben le Seigneur ne vous pardonnera pas non plus. Je pense que ça mérite, n'est-ce pas, de faire parfois une petite mise au point dans notre vie quotidienne. De se dire, c'est vrai que je ne suis pas parfait. C'est vrai que je ne suis pas irréprochable. Mais Seigneur, tu me demandes de supporter, alors je vais le faire. Seigneur, tu me demandes d'excuser tout, alors je vais tout excuser. Seigneur, tu me demandes de croire tout, alors je vais tout croire. Seigneur, tu me demandes d'espérer tout, alors je vais tout espérer. Parce que en toi, si je reste enraciné en toi, je sais que tu vas me donner la force de faire ce genre de choses. À mes yeux, c'est impossible. Je vous l'ai dit, et je vous mets au défi, frères et sœurs, de prendre 1 Corinthiens, chapitre 13, et de le mettre en pratique à partir de demain matin. À votre travail, tiens, faites l'expérience. Demain matin, là où c'est que le Seigneur vous a placé. Ouais, ça va peut-être durer 10 minutes. Et quand vous allez voir le petit chef passer, celui que vous aimez pas trop, ouais, au bout de la 11e, il y a votre esprit peut-être qui va travailler. Bon, Seigneur, j'ai essayé 10 minutes. Hein. La 11e, c'est impossible. Mais c'est comme cela aussi dans votre famille, n'est-ce pas ? Avec votre épouse, avec votre époux, avec vos enfants. Pas toujours facile, n'est-ce pas, de vivre ce 1 Corinthiens chapitre 13. Pas toujours facile de vivre cela avec la famille que le Seigneur a mis à côté de nous. Parfois, c'est pas toujours facile. Et j'en conviens bien, ce n'est pas facile. Je vis les mêmes choses que vous. Vous savez, j'ai un frère qui n'est pas du tout dans l'Évangile. Hein. Et quand il m'appelle, parfois je redoute son appel. Parce que je redoute toujours ses demandes. Alors la question que je me pose quand je vois son numéro de téléphone maintenant, c'est de donner moi du discernement pour lui dire les choses. Et voyez-vous, on est confronté à ce genre de choses régulièrement. De se dire, oui, il y a des gens qui sont autour de nous, qui ce n'est pas facile, mais tu me demandes de vivre cet amour, alors je vais le faire. Je vais faire tous mes efforts pour vivre cet amour. Parce que je sais que quand je ne serai plus là, qu'on puisse mettre sur votre stèle, celui-là, il a vécu par amour pour les autres. Cet homme-là ou cette femme-là a tout fait pour montrer que Jésus-Christ était son sauveur. Et je crois que nous avons besoin de réfléchir à ces concepts que le Seigneur nous a donnés dans sa parole
et de les mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Amen.